L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, le Mali dans l'engrenage de la violence intercommunautaire. C'est le massacre le plus sanglant depuis 7 ans. Au Québec, le projet de loi sur la laïcité. Les employés de l'État devront respecter une stricte neutralité religieuse. En Belgique, le blocage de la loi climat alors que les mobilisations lycéennes ne faiblissent pas. En France, une rumeur tenace sur Internet a engendré des expéditions punitives contre la communauté des Roms. Enfin, en Suisse, on verra que les procédures judiciaires se sont multipliées ces derniers jours contre le travail des journalistes. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. À la une cette semaine pour RFI, le chef d'état-major de l'armée en Algérie, Charlotte Hydrac.
Oui, le puissant général Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, vice-ministre de la Défense et patron de l'armée nationale populaire depuis près de 15 ans. Jusqu'ici, soutien indéfectible du président Bouteflika. C'est pourtant lui qui a proposé cette semaine le départ du chef de l'État face à la contestation inédite dans le pays, un lâchage donc. Lui qui considère l'armée comme la garante de la stabilité du pays, il se pose comme l'arbitre de la crise politique en Algérie.
En Suisse, Pierre Anchoffat, la personnalité de la semaine, est un jeune écologiste quasi inconnu jusqu'à dimanche dernier.
Oui, porté par la vague verte qui a bouleversé le paysage politique dans le canton de Zurich, le jeune ingénieur Martin Neukomm, 32 ans, a en effet été propulsé au gouvernement du plus grand canton suisse, ravissant au passage un siège aux libéraux radicaux. Surpris lui-même de son élection, Martin Neukomm a avoué ne pas encore réaliser ce qui lui arrivait. Test avant les fédérales du mois d'octobre, ces élections zurichoises montrent que la progression des Verts et des Verts libéraux s'est faite d'abord au détriment de la droite, annonçant peut-être un centrage du Parlement suisse.
En France, le célèbre écrivain Philippe Besson, ami proche du couple Macron, a été nommé par l'Élysée consul de France à Los Angeles. Les valises étaient quasiment prêtes, mais c'était sans compter avec le syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères qui avait trouvé les ficelles un peu grosses. Il faut dire que Philippe Besson avait publié il y a 2 ans un livre assez élogieux sur l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Au final, le Conseil d'État en France, qui avait été saisi donc par le syndicat, a annulé cette nomination au motif que les procédures n'avaient pas été scrupuleusement respectées. C'est donc un camouflet pour l'Élysée. Au Canada, Benoît Audet, c'est un skieur qui a retenu votre attention cette semaine.
Alex Harvey, grand skieur de fond, il a mis un terme à sa carrière chez lui à Québec la fin de semaine dernière en montant sur le podium. Il quitte avec 2 titres de champion du monde et 29 podiums en Coupe du monde. Alex Harvey ne s'est jamais gêné pour dire le fond de sa pensée non plus en dénonçant le dopage dans le monde du ski de fond.
En Belgique, un hommage, un de plus pour le cycliste Eddy Merckx. À 100 jours du départ du Tour de France, l'ancien champion quintuple vainqueur de ce Tour de France donne son nom à un nouveau lieu. On voit ça avec vous, Maxime Dumoulin.
Après un vélodrome et une station de métro, un tout nouveau square ce jeudi à Bruxelles arbore son nom, Eddy Merckx. La date de ce nouvel honneur n'est pas un hasard. Il ne restait ce 28 mars que 100 jours avant le départ du Tour de France. Un départ qui démarre cette année de Bruxelles. Encore un hommage. 50 ans après sa première victoire de la Grande Boucle, la période qui précède le Tour est toujours très riche pour le baron Merckx. Quand on lui demande ce qui lui manque encore aujourd'hui, il répond simplement, et le sourire aux lèvres, la paix.
L'actualité cette semaine en Afrique, c'est donc ce massacre qui a visé la communauté Peul au Mali, Charlotte Hydrac.
Oui, 160 personnes tuées en quelques heures dans un village du centre du pays, Ogossagou, le week-end dernier. Une tuerie sans distinction, ni d'âge, ni de sexe.
Des gens sont venus, on tire partout, de l'essence, des grenades. Et on tire sur tout ce qui bouge.
Attaque non revendiquée, mais des milices Dogon sont pointées du doigt. Les Peuls et les Dogon, deux communautés. Les premiers sont traditionnellement éleveurs, les seconds agriculteurs. Au centre du Mali, il y a depuis longtemps une concurrence pour l'accès à l'eau et aux terres. Mais l'escalade de la violence est liée à la présence de groupes djihadistes dans la zone depuis 2015. Des terroristes qui ont commencé à recruter chez les Peuls, ce qui crée un amalgame. De leur côté, les Dogons ont formé des groupes armés d'autodéfense. Ajoutez à cela l'absence de l'État dans la zone. C'est ce que souligne le sociologue Mouamadou Diora.
On aurait pu éviter ça. C'est-à-dire que si on avait créé un système de défense militaire, civile et économique, on aurait pu Mettre en place un système de confiance et de participation où les civils s'organisent pour recueillir l'information, alerter. Et l'État, sur la base de cette bonne information, mettra en place un système capable de réagir à temps.
L'État malien qui a tenté de reprendre le contrôle, il a annoncé le désarmement des milices au centre du pays.
En Belgique, cela fait quelques semaines que les jeunes et moins jeunes sèchent les cours pour descendre dans les rues et militer en faveur du climat. Au cœur des revendications, il y a la loi climat. Entre coup de théâtre et désillusion, cette loi climat a donc fait encore parler d'elle cette semaine, Maxime Dumoulin.
Une loi clé sur porte pour mettre de l'huile dans les rouages institutionnels de la Belgique, imaginée par le gratin du monde académique belge. Mais son essence, c'est de prendre un peu de pouvoir aux régions, au profit du fédéral. Proposer une ambition climatique concrète et cohérente. Mais ça, tous les partis ne l'ont pas vu d'un bon œil. Pourtant, mardi, une commission parlementaire votait en faveur de cette loi à la majorité simple. La loi avait son ticket pour le vote en séance plénière au Parlement fédéral. Mais là, il faut une majorité des deux tiers. Or, trois gros partis flamands avaient clairement marqué leur opposition. La majorité des deux tiers n'a, comme attendu, pas été atteinte. À deux mois des élections législatives, beaucoup d'observateurs ne comprennent pas ce message envoyé à une mobilisation ardente qui ne manquera probablement pas de riposter.
Le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi très attendu sur la laïcité de l'État. C'est un sujet qui soulève pas mal de passions depuis des années au Québec. Cette loi est d'ailleurs une des promesses phares du Premier ministre François Legault, arrivé au pouvoir en octobre dernier. Benoît Audet, tout d'abord, que dit ce projet de loi ?
Il interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en position de coercition, comme les juges et les policiers. Il vise aussi les enseignants des écoles primaires et secondaires. Les gens qui sont déjà à l'emploi de l'État ont un droit acquis et pourront continuer de porter des signes religieux. En contrepartie, le gouvernement s'engage à retirer le crucifix qui trône au-dessus du fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Voici ce que le premier ministre François Legault avait à dire au moment du dépôt du projet de loi.
Moi, je veux que ce débat-là se fasse sans dérapage ou avec le moins de dérapage possible, de façon sereine. C'est un geste important à poser, qui aurait dû être posé depuis une dizaine d'années. Il est temps qu'on tourne la page.
Alors, cette question sur la laïcité, c'est un débat sensible, hein, d'ailleurs comme dans bien d'autres pays. Au Québec, les réactions sont donc nombreuses.
Oui, très nombreuses, à commencer par celle du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il dit qu'il est impensable qu'une société libre légitimise la discrimination. Le gouvernement du Québec, lui, dit avoir l'appui de la population. Les sondages démontrent d'ailleurs que les Québécois sont en général favorables à un encadrement en matière de signes religieux. Le débat n'est pas fini encore. Il va maintenant se transporter en commission parlementaire.
En France, c'est une rumeur qui a fait pas mal de dégâts parmi la communauté des Roms, les gens du voyage, comme on dit en France. Une communauté qui vient d'Europe centrale et orientale. À l'origine, donc, il y a cette rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu'une camionnette blanche circulait en France, et notamment en région parisienne, pour enlever des enfants. Or, malgré les démentis des journalistes qui ont enquêté, malgré les propos de la préfecture de police, la rumeur a persisté sur les réseaux sociaux. Des adolescents s'en sont emparés, puis en guise de représailles, de jeunes adultes ont lancé des expéditions punitives dans un camp de Roms, accusé d'être derrière les tentatives d'enlèvement d'enfants. Une cinquantaine de personnes armées de couteaux et de béton et de bâtons sont donc entrées dans un camp de Roms, en banlieue parisienne. Des voitures ont été détruites, incendiées. Écoutez les témoignages de quelques Roms de ce camp. Ils ne comprennent pas ce déchaînement de violence.
Ils voulaient nous tuer. Ils nous ont jeté de l'essence. Ils ont cassé les voitures. C'était un désastre dans le camp. On ne dort pas de la nuit. On reste éveillé pour protéger nos enfants. Je ne suis plus le bienvenu ici. Si on meurt, ils mourront aussi. S'ils tuent quelqu'un chez nous, nous aussi, on tuera l'un des leurs. Œil pour œil, dent pour dent. Je suis serbe et j'ai peur de personne. Nous, on n'enlève pas d'enfants. J'ai cinq fils, on n'est pas des voleurs d'enfants.
Et quatre personnes soupçonnées d'avoir participé à cette expédition punitive seront jugées le 17 avril pour violence et rébellion. Ils sont âgés de 18 à 22 ans. Un mot sur le plan politique, le gouvernement français a rappelé l'urgence de lutter contre les infox, les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. En Suisse, simple coïncidence ou vrai malaise, les recours en justice se multiplient contre le travail des journalistes, Pierre Anchoffa.
Oui, ce sont des cas très différents, mais c'est vrai, ce cumul de quatre membres de gouvernement Cotonou qui saisissent à tour de rôle le pouvoir judiciaire en quelques jours a de quoi surprendre. Dans le cas le plus récent, le démocrate chrétien valaisan Christophe Darbelay a obtenu des mesures super provisionnelles contre la publication d'un article concernant sa vie privée. Mais l'ordre de la justice est arrivé trop tard à la rédaction de la Welt Woche. Seules les versions électroniques ont pu être caviardées. Le rédacteur en chef, lui-même politicien, dénonce ces mesures préventives car pour lui, Christophe Darbelay est une personnalité publique. Il ne pourrait donc pas invoquer sa sphère privée. De son côté, la libérale vaudoise Jacqueline de Quattro a carrément obtenu le retrait des librairies, à titre provisionnel aussi, d'un livre dont elle est l'héroïne involontaire.
Et comment réagit la profession de journaliste ?
Eh bien, le syndicat des journalistes Impressum avait pris la plume deux jours plus tôt contre les plaintes des conseillers d'État Pierre Maudet et Pascal Broulis. Pour des sujets et des articles différents, ils ciblent le même journaliste, l'un pour atteinte à la personnalité, l'autre pour atteinte à l'honneur. Marion Moussadek-Emono d'Impressum dénonce une forme d'intimidation.
C'est une atteinte claire à la liberté de la presse. Monsieur Broulis aurait eu d'autres moyens beaucoup plus légers que d'activer la justice, comme le Conseil suisse de la presse, qui est l'organe qui tranche hein, en cas de litige sur la déontologie respectée ou non par le journaliste. C'est une intimidation qui est adressée aux journalistes dans leur ensemble.
Dans aucun de ces quatre cas, la justice n'a encore tranché sur le fond. Les spécialistes du droit des médias attendent ces jugements avec une certaine appréhension.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.